Georges Baume, Pierre. Le jeudi matin, avec mon papette, nous faisions le tour de ville. La vieille ville de Rodez, si jolie sur sa butte. Il n'était pas aisé, d'abord, de partir de la maison. Mamette, qui achetait au marché depuis 7 heures, ne rentrait jamais. C'est à elle que nous devions laisser la garde de la boutique. Elle jacasse toujours, Maugré et papette. Nous n'aurons pas le temps de nous promener. Mimi, notre cordonnier, doit venir chercher ses empeignes et il faut que je les prépare avant 11 heures. Oh, papette, 8 heures ne sont pas sonnées. Tais, les voilà qui sonnent. Boum, boum, boum. Les coups de l'horloge s'égrenaient dans le soleil, aussi lents et pesants que les sabots des maraîchers qui passaient dans la rue à l'aube. Papette, pour calmer sa nervosité, balayait le devant de la porte, tout le ruisseau, 4 fois au moins, et enfin nous apercevions, à l'extrémité de la rue, au coin de l'église, ma petite mamette si vaillante, qui se pressait, gesticulant, criant des excuses, brandissant son panier chargé de vivres. Mais papette n'avait pas pitié de sa fatigue. En avant les reproches. Quelle pie il avait épousée! Pourquoi le bon Dieu n'avait-il pas habillé les femmes en avocats ou en ministres? Mamette non plus n'avait pas la langue à la poche. Elle se défendait, ripostait jusqu'au dernier mot, son panier pendu au bras. Et ces hommes qui ne comprennent pas qu'en amusant les marchandes, on obtient des prix modestes. Et ce papette qui ne pense qu'à la promenade. Ce n'était pas uniquement pour Jacou, pardi, qu'il avait brossé sa casquette et sa lévite. Papette, dans sa figure rougeau dérasée, riait en se détournant. Il allumait sa pipe et s'abaissait vers moi. « Allons-nous-en, vite, cette pipe m'abîme la cervelle !» Mamette criait encore en étalant sur la table de la cuisine ses achats que nous trottions par la rue. On ne sortait pas facilement non plus du quartier. À chaque porte, on arrêtait Papette, qui était un bon vivant, qui parlait des fleurs, des images décorant les magasins, avec une passion d'artiste. On savait rire en ce temps où la terreur électorale n'avait pas encore divisé les populations. Moi, je souriais de voir tout ce monde content, paresseux, émerveillé de vivre, dans la matinée sonore d'avril. Petit homme déjà, fier de ma blouse de collégien, serré par une ceinture à boucles de cuivre, avec ma figure longue et rose sous le képi à galons d'or, je serrais la main de Papette et lui disais « Il me tarde de revoir les jardins, ne t'arrête plus !» Alors nous hâtions le pas. Il s'entourait de la fumée de sa pipe pour ne pas voir les amis qui de partout l'interpellaient. Au jardin, il entrait familièrement. On s'asseyait sous un platane, on caressait les chiens. Les jeunes maîtres, qui ressemblaient par leur grâce au papa et à la maman que j'avais perdu naguère, m'offraient des cerises, des fraises, des jujubes. Je ramassais des escargots, nous rentrions après-midi, et quel tapage! Quelle trompette de cris et de rires à la cuisine! Ce jeudi, au jardin de Rose la Méchante, nous trouvâmes dans un trou, à l'entrée du hangar, 4 menus chiens blancs et frisés, pareils à des boules de coton. « Tu en veux un, Jacou ?» me proposa Rose. « Ah, mon Dieu !» intervint grand-père. « Sa mamette n'aime pas les animaux. »« T'es, pourquoi ? Elle est si bonne !» Souvent, pendant qu'elle bavarde dans la rue, les chiens viennent jusqu'à la cuisine lui dérober des côtelettes ou les os du pot-au-feu. Elle ne peut pas les souffrir. « Tant mieux, celui-ci gardera la maison. » Papette se rendit à cet argument. Et me voilà joyeux, mon toutou entre les bras. « Comment l'appellerons-nous » demandai-je. « Comme le mari de Rose la Méchante, Pierre. Rose l'aimera davantage et nous donnera les meilleurs fruits à nous autres. » Pierre, Pierrou, je le caressais. Dans les jardins, je regardais à peine les arbres qui se paraient de fleurs. Papette cueillait à son aise des roses, rapportait les cancans de la ville, en inventer pour le plaisir de faire battre des voisins grincheux ou jaloux. Moi, j'étais ravi de posséder quelque chose, une créature bien vivante qui avait des yeux roses, un museau de belette, un véritable édredon pour habit et qui m'observait en essayant de japper. « Il a soif, me dit Papette. » Dans une étable, on lui fit boire du lait. Dans chaque jardin, les enfants, même plus grands que moi, me l'enviaient. En ville, je voulus le poser à terre, lui apprendre à marcher. On se gaussa de nous. Papette se divertissait de l'émotion de gaieté qu'un si petit être provoquait dans le monde dès son apparition. Seulement, nous arrivâmes après une heure à la maison. Le dîner était froid. Mimi n'avait pas attendu pour ses empeignes. Alors, quelle farandole de malédiction sur Papette! Heureusement, il ne se troublait guère. Moi, je n'écoutais rien. Je préparais à Pierre une couchette dans une vieille caisse garnie de paille. Mais, à mon tour, Mamette me gronda d'embarrasser la boutique d'un tel insecte. Puis, de voir le chien timide, effaré dans des lieux inconnus, elle s'attendrit. Désormais, pour m'occuper de lui, je négligeais mes devoirs. Je sortais précipitamment du collège, avec la crainte qu'en mon absence, une charrette ne l'eût écrasé dans la rue. Je rôdais moins par la campagne. Ou bien je promenais Pierrot, qui, bientôt, sut courir plus lestement que moi. Je lui avais appris à se poser sur son séant, à faire sentinelle, une canne entre les pattes, à saisir d'un hochement vif de la tête un morceau de sucre placé au bout de son museau. Il était très intelligent. Il était hardi aussi. Il s'insinuait dans les maisons les plus avares et trouvait le moyen d'y attraper un os ou un quignon pour la simple malice de s'emparer du bien d'autrui, puisqu'il était très bien nourri chez nous. Que de disputes à cause de lui, Papette dut soutenir dans le voisinage. Les jeudis, naturellement, nous l'amenions dans nos promenades, et lui qui jouait, si ardent, si fou, avec ses camarades, dans tous les jardins, chaque fois qu'on pénétrait chez Rose la méchante, il se fourrait dans mes jambes, la queue basse, et grogne que tu grogneras, autant contre sa mère, qui grommelait de même sans le reconnaître, que contre Rose, qui ne parvenait pas, malgré les sourires de son visage ridé, malgré ses gâteries, à toucher sa belle toison blanche. Devinait-il que c'était là son premier domicile, et craignait-il que Jacou pût lui laisser un jour? Ah, quel bon gardien! Lorsque, par hasard, un de ces gueux qui se nourrissent dans les carrefours avait pu se glisser dans la cuisine, Pierre lui sautait dessus, le houspillait d'importance, et le gueux ne paraissait plus de quelques semaines. Aussi, Mamette s'en allait bavarder à l'aise le long des ruisseaux. 3 ans après, devenu fort, capable de se mesurer avec un dogue, bien qu'il fût toujours peigné et lavé à miracle, il venait m'accompagner au collège, puis m'y reprendre aux heures de sortie. Mais voilà, l'excès du bonheur produit quelquefois les pires maux. Pierre rôdait trop. Il se mêlait à toutes sortes de bêtes pour bavarder à sa manière, sauter, danser, jouer à cache-cache. Un jour d'été, par un de ces terribles soleils qui, dans le midi, empêchent les gens de sortir de chez eux avant 3 heures, un chien enragé parcourut la ville. Aussitôt, chacun de crier au secours, de rappeler les enfants égarés, de barricader portes et fenêtres. Le chien enragé courait de plus belle, ahuri, cherchant par le dédale des ruelles une issue vers la campagne, revenant sur ses pas, trempant quelquefois sa langue au milieu des ruisseaux. Les agents de police se précipitèrent à sa poursuite, ainsi que des boutiquiers armés de tromblons, de pelles et de piques. On finit par l'assommer. Seulement, dans cette cité paisible où les bêtes vivent aussi librement que dans un bois, ce chien enragé avait mordu beaucoup de ses congénères, dont notre pauvre Pierrot. Tout de suite, monsieur le maire, qui, de par sa profession de pharmacien, imposait davantage son autorité en la circonstance, nous ordonna d'abattre Pierrot sans pitié. « Au moins, implora Papette, accordez-moi jusqu'à demain, puisqu'il n'y a point de danger dans les 40 jours de la fermentation du mal. » « Eh bien, répondit monsieur le maire, je vous accorde ce délai parce que vous êtes l'ami des conseillers municipaux. » Mon pauvre Pierre, jamais encore je n'avais tant pleuré. Malgré la défense de Mamette, je le pris sur mes genoux, je le berçai entre mes bras, contre ma poitrine. Je lui aurais bien volontiers donné de ma vie, de ma santé forte et pure. Lui me regardait étonné, tremblant de tendresse, se demandant aussi quelle faute il avait pu commettre. Car tout à l'heure, Papette furieux l'avait frappé. Bientôt, il ne bougea plus. Il s'efforça de se faire oublier, les yeux clos. S'il levait le museau, c'était pour me remercier en me léchant la main. « Oh, Pierre, lui disais-je, Est-ce vrai que nous ne t'aurons plus demain, à cette heure, que tu ne verras plus notre maison, les dalles de ce foyer où tu aimais te reposer les soirs d'hiver ?» Il me considérait quand je criais trop haut, et je crois que, pour me consoler, il secouait gentiment le front. Savait-il de quelle blessure mortelle, presque invisible, il était marqué à une patte de devant, et soupçonnait-il que, victime innocente, il devait, pour nous préserver du mal nous-mêmes, fatalement périr? Certes non, il ne soupçonnait rien de ce qui est triste. Dieu a bien fait les moindres choses. Brusque, il s'écarta de moi, se roula en boule auprès du feu, avec une étrange apparence de résignation. Mamette le plaignit. « Oh, gémit-elle, les événements vont vite en ce monde. Tais, je parie qu'il n'a pas faim. Il tremble, tu vois, c'est la fièvre. Ne le touche pas, Jacou. Tu te trompes, Mamette, il a faim. Il mangera pour se remettre de son émotion. » À table, je négligeais de manger moi-même pour soigner mon toutou. Eh bien, il se régala, un abondant riz au sucre d'abord, puis une côtelette que, sans y avoir touché pour ainsi dire, je lui glissais pressement sous la table. Pour son dernier repas, il n'eut point à se plaindre. Une fois qu'il fut couché dans son caisson, sur la paille, nous restâmes quelques minutes à le considérer, et lui, tout stupéfait, se léchait parfois sa patte blessée. Mamette insinua. Si on l'attachait, car il pourrait monter dans nos chambres, on ne se prémunit jamais assez contre les dangers. Alors Papette, non sans hésitation, prit une corde. Pour la première fois, Pierre se révolta. Il avait toujours vécu libre. Je me révoltai aussi contre Papette, qui me traita de poule mouillée, mais qui, tout de même, lorsqu'il avait peur d'être mordu, retirait ses mains plus rudes que l'écorce. Pierre serait-il déjà devenu dangereux? Allons, je vis qu'il faudrait de bon cœur consentir les sacrifices. Et c'est ainsi tout le long de la vie. Savoir, pour les autres, faire abandon de ses goûts et de ses préférences, se priver des choses les plus chères, s'immoler parfois soi-même. Tandis que nous nous séparions aux portes de nos chambres, Mamette, qu'on aurait cru insensible, mais qui retrouvait toute son âme dès qu'elle n'était plus au bavardage du dehors, émit une objection à laquelle nous n'avions pas encore songé. « Tout ça, c'est très joli, le tuer. Seulement, qui le tuera ?»« Eh bien, je ne sais pas, » répondit Papette. « Moi, pardi. Les autres lui feraient trop de mal. »« Où et comment t'y prendras-tu ? » « Ma foi, tu m'en demandes trop. » Il se retourna vers moi, qui, haletant, le front moite de sueur, souhaitait encore de pouvoir garder Pierre. « Eh bien, conclut-il, tu réfléchiras cette nuit, Jacou. À nous deux, nous arrangerons un moyen qui ne soit pas pénible. » Quelle nuit ! Moi qui, d'habitude, dormais d'un trait, je sautais tout le temps cette nuit-là, comme un chat maigre, entre les draps de mon petit lit. À travers mes cauchemars, je ne découvrais aucun moyen agréable de nous débarrasser de Pierre. Il ne pouvait pas, cette nuit, monter se coucher contre ma porte. Parfois, je prêtais l'oreille, je ne l'entendais pas du tout se remuer sur la paille. Il était mort, peut-être, de ce mal si mystérieux pour moi et si terrible. Enfin, l'aube me délivra, l'aube d'un jour paisible où les maraîchers, en se rendant à la halle, ébranlait la rue de coups de fouet et de rire. Je fus sur pied plus tôt que de coutume. En bas, Papette préparait le café devant le feu de la cuisine. Il se dressa et, presque souriant, me prit par le bras. « Eh bien, j'ai trouvé le moyen. »« Ah, nous le guérirons ?»« Non, ça c'est impossible, mais je te jure que nous ne lui ferons aucun mal. Nous irons au Grand Jeu. » Là, un beau coup de fusil, et pas une seconde, il ne se sera douté de son malheur. Papette souriait parce qu'il s'efforçait de me donner du courage. Seulement, de me voir, tout pâle, hocher la tête et contenir mes larmes, sa douleur fut plus forte et, la face contractée, il ne parla plus. Pierre, bien qu'il fût détaché, ne bougeait pas de sa couchette, lui qui, d'habitude, me cherchait les mains avant d'aller dans la rue, japper et jouer avec ses camarades. Je n'osais pas le regarder ni le toucher. Cependant, il était toujours joli, blanc, touffu et frisé, comme le manchon que Mamette portait le dimanche lorsqu'elle était enfant. tandis que, pris de pitié, je m'abaissai vers sa couchette, il sortit en ployant l'échine, sans me regarder non plus, et s'en alla au ruisseau du dehors étancher sa soif, qui devait être ardente. Je restai penaud. Papette me dit tout bas « Bien entendu, tu m'accompagnes. Tu n'iras pas au collège. »«
Oui, papette. »
Cette faveur de manquer le collège, qui m'eût procuré tant de plaisir un autre jour, ne m'émouvait pas aujourd'hui. Papette s'en étonna, mais, comprenant ma misère, il ne dit rien. Il soupira, sans trouver peut-être pour lui-même une consolation. De bonne heure, nous partîmes. Pierre, de son propre mouvement, nous suivit. Il ne courait pas, le pauvre. Il épiait à peine le seuil des portes, d'où chacun, à sa vue, se retirait précipitamment. Il faisait, je me rappelle, un ciel merveilleux de calme et de lumière, semblable à une voûte de cristal où résonnaient allègrement les vents de la plaine et des collines. Au faubourg, dans les ruelles des jardins, les amis nous interrogèrent, penchés à leurs fenêtres. « Alors, vous y allez ? Eh, tu le vois bien ? Hélas, ayez du courage au moins !» Un étranger du Rouergue lui-même aurait compris le but de ce voyage, non seulement à notre mine contrite, mais au fusil que Papette portait, accroché à l'épaule, et dont, quoique bon chasseur, il ne se servait pas depuis longtemps pour ne pas tuer les petits oiseaux. Et il y en avait des oiseaux ce matin-là, plus qu'à l'ordinaire, je crois. Je marchais lentement, avec fatigue, le cœur lourd. Je me défendais de regarder Pierrot, que je sentais rodailler dans mes jambes, puis souffler contre le pantalon de Papette. Le silence où nous demeurions l'intimidait sans doute. Il se taisait, il s'abritait sur nos traces, dans notre ombre. Papette, sans songer à fumer, toussait, se frottait les yeux, toussait dur. Je pense que c'était pour réprimer son angoisse. Ne faiblirait-il pas au dernier moment ? S'il faiblissait, aurais-je la force de le remplacer, moi qui n'avais jamais eu même l'idée de toucher un fusil ? Tout à coup, Pierre se mit à japper, à courir çà et là. Saisi d'étonnement, nous nous arrêtâmes. Décidément, il ne soupçonnait rien de notre malheur. Tout à l'heure, il avait voulu se conformer à nos tristesses, ou peut-être il était encore ému d'avoir été attaché toute la nuit, condamné dans sa couchette. Oui, mais si, maintenant, c'était sa première manifestation de démence et de rage. Il courait, bondissait par les luzernes et par les blés, en chassant les oiseaux. Puis, tel qu'une flèche, il vint sur moi. Nous eûmes vraiment peur. Je tressaillis, je me renversai, les bras levés pour me dérober à son atteinte. Mais non, il était joyeux, il aboyait avec insouciance. Le bon Dieu avait pitié de nous d'accorder quelques moments de joie à cette bonne bête qui allait être cruellement punie d'avoir trop aimé, comme un enfant de bohémien, vagabonder par les rues. Voici enfin notre vigne bien étalée, presque au sommet du coteau. Papette, qui, depuis la veille, avait réfléchi aux moindres détails de ce drame, l'exécuta sans arrêt. « Vois-tu, me dit-il, en me désignant au milieu du champ l'olivier le plus beau, c'est là-bas que nous allons accomplir le sacrifice. » Les oiseaux, en nous voyant arriver, s'échappèrent de l'épais branchage avec des cris de frayeur. Pierre, à nos pieds, creusait furieusement un trou par caprice d'enfantillage. « Vois-tu, Jacques, Pierre creuse sa fosse. » Papette chargeait son fusil. Pendant quelques minutes, il observa les alentours silencieux pour conserver dans les yeux et dans le souvenir le visage des terres en cette heure solennelle. Quant à moi, le cœur me battait si fort que j'y portais la main. « Où est Pierre ? » me demanda-t-il. Ma foi, je ne m'étais plus soucié de lui. Il devait, loin déjà, suivre entre les souches la piste des lièvres qui abondent dans ces garrigues. « Pierre ! Pierre !» Il s'avançait, puis s'éloignait davantage avec espièglerie. « Tout de même, dit Papette, si notre mère se trompait. » « J'y pensais, oui. » « Non, ce n'est pas possible. Même dans le doute, nous avons envers nos semblables un devoir d'humanité à remplir. » Afin de dissiper mon désespoir, je considérais la plaine verte si jolie au soleil et, au milieu de la plaine, sur la butte ombragée, notre ville de Rodez, au bourdonnement de ruches. Pendant que nous hésitions, Pierre, comme pour nous faire une plaisanterie, s'approcha en rampant. Papette l'aperçut, et soudain, dans une de ces décisions qu'emporte l'instinct, Il tira. Pierre n'était plus. Oh mon Dieu ! Je me penchai aussitôt, je caressai le museau de mon chien, sa toison blanche et tiède. Papette, au risque de le casser, avait rejeté loin son fusil avec colère. « Allons, dit-il, nous devons montrer du courage jusqu'au bout. » Nous agrandîmes avec la pioche du grand jour le trou que Pierre avait creusé tout à l'heure dans la terre friable. Quand il fut couché là, sur quelques brins de luzerne, nous plantâmes sur le tertre une croix que Papette avait su fabriquer de branchettes d'olivier. Nous n'osions plus nous regarder. Le silence était divin. Mon pauvre Pierre, il me semble que je ne l'avais pas assez aimé, et je pleurais, accroupi près de la fosse. Papette me prit par la main. Nous rentrâmes, sans parler, à la ville lointaine. La vue des gens au travail, des jardins parfumés, des maisons familières, nous rendit l'espérance. À la maison, Mamette, au lieu de jaser dans la rue, nous attendait au coin du feu. « Eh bé, dit-elle. « Pierre n'est plus, répondis-je, mais au moins, c'est nous qui l'avons enseveli de nos mains. » Papette porta bien vite au grenier le fusil qui, depuis, n'a jamais revu le soleil. Puis, sans nous être donné le mot, nous nous retrouvâmes dans le salon, devant la Vierge au manteau semé d'étoiles. Nous priâmes, en songeant à Pierre, pour le mal que nous avions pu commettre. Pauvre petit Pierre, il nous avait toujours aimés, lui, et mon cœur, aujourd'hui, après tous mes malheurs, lui reste encore fidèle.